Allô Christophe Gérard, à
Bonjour Denis
Paris, ça
Martin.
va bien?
Ça va bien et toi?
Oui, on va parler de la sexualité des Français parce que la sexualité des anges, ben toi t'es mon ange préféré. Alors,
J'étais en train de me dire, tu considères les Français comme n'étant pas des anges.
ben écoute, il y a pas beaucoup d'anges partout sur la planète. Allons-y, ben faites, allons-y. Alors on parle de la sexualité des Français.
Oui, tout à fait. L'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, vient de publier les résultats de sa quatrième enquête sur le comportement sexuel des Français depuis 1970. La précédente étude date de 2006, ce qui fait que ça fait presque 20 ans. Et ce qu'on peut dire, c'est que les choses ont évolué sur ce laps de temps, ce qui est d'un point de vue sociétal assez intéressant.
Alors, qu'est-ce qui a changé en 20 ans?
Alors, ben, si on doit résumer, c'est un peu ce que tu disais en accroche. Les pratiques sont plus variées, les rapports moins fréquents et le niveau de violence reste assez élevé, ce qui est pour le coup assez inquiétant.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus, là?
Alors, le premier constat réside dans l'âge du premier rapport sexuel, hein, puisque l'enquête montre que l'âge médian de ce premier rapport est de 18 ans 2 pour les femmes, hein, 17 ans, un peu plus de 17 ans pour les hommes. En 2023, c'était 17,3 ans sur la précédente étude, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Donc, on fait l'amour beaucoup plus tard pour la première fois.
Oui, je continue.
Oui. Alors en fait, l'autre point d'augmentation, c'est le nombre moyen de partenaires des femmes qui ont entre 18 et 69 ans, qui est passé de 3,4 en moyenne au cours de la vie en 92 à 7,9 en 2023. Pour ce qui est des hommes, ils déclaraient autour de 11 partenaires entre 92 et 2006. En 2023, le nombre est de 16, pardon, partenaires.
Ben,
Donc un
ouais.
beaucoup plus élevé.
C'est à se demander qui a fait augmenter le nombre de partenaires. Cela dit, bon, OK, je fais des blagues, mais ça fait du bien parce que c'est pas tout à fait toujours drôle. Alors, c'est pas le seul changement.
Non, on remarque en fait que le répertoire des pratiques s'est diversifié. Elles sont moins hétéronormées. Alors, ce que j'entends par hétéronormé, ce sont des rapports vaginaux. De plus en plus d'hommes et de femmes déclarent avoir expérimenté d'autres pratiques que les rapports vaginaux, justement. On parle de masturbation, de sexe oral et de rapports anaux. Et si on s'intéresse plus particulièrement aux rapports anaux, on constate que 23,4% des femmes en 92, en 2023, on est à 3. 38,9%. L'augmentation est encore plus forte pour les hommes, hein, puisqu'on est passé de 29,6% à 57,4%.
Plus de la moitié.
Bon,
Bon,
tout à fait.
c'est pas tous des hommes gays quand même. Alors,
Non.
quelles sont les modifications par rapport... Je suis désolé, mais c'est parce que quand je lis ça, je lisais ça, j'ai cette réaction-là à chaque fois. Quelles sont les modifications là, par rapport à nos communautés, justement?
Il y a du positif, hein, et c'est d'ailleurs assez. Enfin, il y a un contraste par rapport au nombre d'actes LGBT-phobes qu'on constate ici en France, hein, qui sont répertoriés chaque année. Ce qu'on constate, c'est que l'acceptation sociale de l'homosexualité est en hausse. En 2023, c'est 69,6% des femmes et 56,2% des hommes de plus de 18 ans qui considèrent l'homosexualité comme une sexualité comme les autres. Par contre, il y a encore du travail à faire, hein, pour changer les mentalités sur les questions de genre. En effet, les opinions sur la transidentité sont nettement moins favorables. C'est 41,9% des femmes et 31,6% des femmes qui estiment qu'il s'agit d'une identité comme une autre. Autre phénomène notoire, hein, en ce qui concerne nos communautés, c'est que le nombre de personnes qui s'engagent dans une sexualité non exclusivement hétérosexuelle augmente très nettement. Pour la première fois, il y a plus de femmes, hein, qui évoquent des expériences avec des personnes de même sexe et on constate qu'il y a 13,4% de femmes et 7,6% d'hommes âgés de 18 à 89 ans qui ont déclaré avoir été attirés au moins une fois par des personnes de même sexe au cours de leur vie.
Je vais juste faire une parenthèse ici. Je vais répéter qu'il y a 57,4% des hommes qui ont pratiqué le sexe anal et il y en a 7,6 qui se disent avoir été attirés par des personnes du même sexe. Bon, je laisse ça là. Et à quel... Qu'est-ce qu'on peut dire de la satisfaction sexuelle?
Mais là aussi, hein, ça augmente, elle s'améliore. Hein. La proportion de personnes qui se déclarent satisfaites de leur vie sexuelle actuelle s'établit à 45,3% des femmes contre 43,6% en 2006 et 39% des hommes qui disent eux aussi être satisfaits sexuellement. C'était 35,1% en 2006. Et de manière générale, bah, la satisfaction sexuelle est plus élevée aujourd'hui et à tous les âges qu'elle ne l'était en 2006 pour les deux sexes. Il y a deux exceptions cependant pour les femmes. Femmes entre 30 et 39 ans et pour les hommes de plus de 60 ans.
Et qu'est-ce qu'on peut dire là sur la sexualité qui diminue avec l'âge?
Bah, ça diminue pas vraiment parce qu'en 2023, c'est 56,6% des femmes et 73,8% des hommes qui restent actifs sexuellement après 50 ans. Et le chiffre est encore plus élevé pour les personnes qui sont en couple, hein, puisqu'on passe à 77,2% des femmes et 84,9% des hommes qui ont eu une activité sexuelle dans les 12 derniers mois. Il y a un autre point d'évolution, c'est une diminution de l'activité sexuelle. L'an dernier, c'est 77,2% des femmes et 81 1,6% des hommes qui déclaraient avoir une activité sexuelle avec des partenaires dans les 12 derniers mois, les chiffres étaient respectivement de 82,9% et 89,1% en 2006.
Wow, OK. Et qu'est-ce qu'on peut dire là? Parce qu'on a mentionné la violence.
Tout à fait, hein. Moi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une mobilisation sociale assez forte contre les formes de violence sexuelle, hein, qui a modifié un peu les cadres normatifs du consentement. Par contre, l'ampleur des violences demeure inquiétante, notamment chez les plus jeunes. C'est 36,8% des femmes âgées de 18 à 29 ans et 12,4% des hommes dans la même tranche d'âge qui ont déclaré avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie. C'était 16,5% des femmes et 4,7% des hommes en 2006. Et ben, ces violences, elles sont souvent survenues alors que les personnes concernées étaient mineures au moment des faits. Alors, les déclarations de violences sexuelles, donc rapport forcé ou tentative de rapport forcé, sont très élevées parmi les personnes qui déclarent des partenaires de même sexe. C'est 53,1% des femmes et 29,5% des hommes. C'est encore plus élevé hein, pour les personnes transgenres. En tout cas, les personnes transgenres déclarent plus de violences sexuelles que les personnes cis. On est à 43,1% des personnes trans qui ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie.
Et parallèlement à cette étude, il semble que la mise en place d'un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école ne soit pas chose facile en France. Ça ne l'est pas au Québec non plus, je dois dire. Oui.
Oh, que non. Et à chaque fois que le sujet revient sur le tapis, hein, on note une levée de bouclier de la part de l'extrême droite et de tous les conservateurs qui estiment que cela n'a pas sa place à l'école. L'éducation sexuelle, encore une fois, et comme beaucoup de sujets pour ces gens-là, c'est woke.
Ah,
Donc.
c'est un mot à bannir à cette émission. Mais en tout cas, c'est pourtant plus qu'un projet, là, c'est une loi qui impose ce programme dans la scolarité des jeunes Français.
Oui, c'est pas récent, hein, puisque c'est l'éducation à la sexualité est inscrite dans le code de l'éducation depuis 2001. Elle est rendue obligatoire aux trois niveaux de scolarité, donc l'école pour les plus jeunes, le collège et le lycée pour les adolescents, à raison d'au moins trois séances annuelles, adaptées bien évidemment à chaque âge et à chaque niveau d'enseignement. Elle est complétée par une circulaire du 12 décembre, du 12 septembre, pardon, 2018, qui définit une liste précise des thématiques qui pourront être abordées à l'école élémentaire.
Mais cette loi, est-ce qu'elle est appliquée?
Pas du tout, hein. Il est bien là le problème. Mais en même temps, ben, si quand on est enseignant, il faudrait être bien téméraire pour se lancer dans une telle éducation. D'abord parce qu'il n'y a pas véritablement d'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et il n'y a pas réellement de programme. En tout cas, il n'y avait pas réellement de programme jusqu'à présent. En plus de ça, il faut compter sur la prise de position des associations proches de la Manif pour tous, de l'extrême droite, comme le Parti Reconquête d'Éric Zemmour, mais également de la droite conservatrice, les Républicains notamment.
Mais ça, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène.
Oui,
Et je
c'est
parle pas de la
revenu.
rivière,
Tout
là.
à fait. C'est revenu récemment, hein, puisqu'il y a quelques semaines, la ministre de l'Éducation nationale, démissionnaire, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement Barnier a donné sa démission et qu'un nouveau gouvernement est en cours de constitution. Donc, elle s'appelle Anne Genté, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, et elle a annoncé que le programme de cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est très important de le signaler, serait dévoilé au cours du mois de décembre. Hein. Il n'en fallait pas moins, hein, pour que des personnalités refassent surface. C'est le cas notamment de Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, qui est aujourd'hui à la tête d'un syndicat de la famille et qui dénonce à nouveau le contenu du programme avant même qu'il ne soit diffusé, avec un gros fantasme qui refait surface, la théorie du genre. Alors, selon la droite conservatrice, le programme inciterait les enfants dès leur plus jeune âge à changer de sexe. Par ailleurs, ces derniers seraient confrontés à un renseignement des pratiques sexuelles en des termes crus et pour le moins explicites. Alors, selon les opposants au programme de l'éducation sexuelle, n'est pas du ressort de l'école. Hein. Pour eux, c'est celui de la famille. Alors, on peut s'interroger, hein, sur le bien-fondé de cette analyse quand on voit leur ouverture d'esprit en ce qui concerne l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, pardon.
Ouais, ben voilà des prises de position. Je suis certain que ces prises de position trouvent écho dans certains médias, hein?
Ouais, c'est ça, pour moi, c'est vraiment très inquiétant, hein, puisque, comme tu le disais, il y a certains médias qui n'hésitent pas à diffuser des fake news. C'est le cas notamment de la chaîne Tout Info CNews et d'un de ses journalistes plus particulièrement qui s'appelle Pascal Praud. Alors, pour l'anecdote, la chaîne compte parmi ses chroniqueurs un de tes compatriotes, hein, Mathieu Bock-Côté. D'ailleurs, si vous pouviez le récupérer, parce que franchement, si on avait dû choisir une référence québécoise, c'est pas celle-là qu'on aurait prise.
Non, non, le billet doit un aller simple. Alors, il reste chez vous.
Merci pour ce cadeau empoisonné. Pour en revenir à Pascal Praud, hein, il a dévoilé dans son émission qui s'appelle L'heure des pros un soi-disant contenu de programme constaté par huissier, et c'est ça qui est dingue, constaté par huissier, un programme qu'il cite avec un langage cru à 20h, qui est une heure de grande écoute chez nous, un programme qui, selon lui, serait présenté sur un site qui s'appelle onsexprime.fr.
Bon, est-ce vraiment le sommaire là, du programme?
Non, et loin de là. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut parler de désinformation. Alors, pour être honnête, le site onsexprime.fr existe bien et c'est bien un site gouvernemental, hein, puisqu'il a été développé par Santé publique France. Mais son objectif, c'est juste de répondre aux questions, hein, que se posent les adolescents sur la sexualité, mais également d'autres sujets comme la transidentité, le genre, la notion de consentement. Mais le contenu du site n'a strictement rien à voir avec le programme qui est mis en place à l'école.
Et les politiciens, eux autres, ne sont pas en reste, hein?
Eh non, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Récemment, lors d'une séance de questions au gouvernement, un sénateur a interrogé le ministre délégué à la réussite scolaire, qui s'appelle Alexandre Portier, sur le sujet et sur la théorie de genre, soi-disant présente dans le programme. Alors, ce dernier a répondu qu'en tant que ministre et père de famille, il s'opposerait toujours à la présence de la théorie de genre dans les programmes scolaires, ainsi qu'à l'intervention de certaines associations qui, selon lui, développent ces théories dans les établissements. Ça lui a valu un recadrage de la part de sa ministre de tutelle, Anne Genté, qui a insisté sur le fait que la théorie de genre n'existait pas.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce programme vraiment?
Bah, rien de ce que dénoncent les détracteurs. Hein. D'abord, ce programme, il a pour but de donner un cadre aux enseignants et il s'adapte précisément à l'âge du public visé. À l'école maternelle et au primaire, on évoque l'éducation à la vie affective et relationnelle. Et si le genre est évoqué, c'est pour parler de respect et du fait que, par exemple, contrairement à ce que l'on entend parfois, une fille peut jouer avec des jeux de garçons et vice-versa, et qu'une fille peut également vouloir faire un métier soi-disant réservé à la gent masculine. La notion de consentement est-elle aussi présente dans le programme, de façon à ce que les plus jeunes puissent prendre conscience que leur corps leur appartient et qu'ils peuvent s'opposer à des gestes qui les dérangent. C'est une façon, hein, de lutter contre les agressions pédophiles. L'éducation sexuelle, elle va s'adresser plus aux adolescents, donc au collège et au lycée. Une façon de remettre la sexualité dans un contexte plus sain et respectueux, quand on sait que les jeunes et les adolescents sont de plus en plus confrontés assez jeunes à la pornographie et qui a cette tendance à biaiser un peu leur rapport à l'autre.
Et ce programme, est-ce qu'il va voir le jour?
Bah, on peut l'espérer, mais très franchement, c'est loin d'être évident, hein, dans le contexte d'instabilité politique de la France actuellement. Est-ce que le prochain gouvernement prendra le risque de rentrer en conflit avec une partie de l'électorat et des parlementaires? Rien n'est moins sûr.
Il nous reste 4 minutes. Peux-tu nous parler de... Il y a deux livres qui ont suscité ton attention. Je te laisse y aller là-dessus.
Ouais, alors le premier livre, en fait, bon, on est à la période de Noël, je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler d'idées cadeaux ou de lecture même, hein. Le premier livre s'appelle Bruno et Jean. C'est un livre de Pauline Valade, qui est historienne. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de visiter Paris, ont eu l'occasion de se balader dans la rue Montorgueil, qui se situe dans le quartier idéal, au centre historique de la capitale. Il y a une plaque commémorative qui est posée à même le sol et qui évoque le destin tragique de Bruno Lenoir et Jean Diou, qui ont été arrêtés le 4 janvier 1750, condamnés pour homosexualité et brûlés en place de Grève, donc l'actuel parvis de l'Hôtel de Ville, le 6 juillet 1750. C'était la dernière exécution pour homosexualité en France. Donc, on ne sait pas grand-chose de ces deux hommes, hein, puisque tout ce qui reste, c'est les interrogatoires, les minutes d'un procès expéditif et beaucoup de zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, l'historienne savait qu'elle n'allait pas pouvoir les combler par des faits historiques. Elle a donc décidé d'écrire un roman pour raconter leur histoire, leur attirance mutuelle, leur histoire d'amour. C'est vraiment un très très beau livre. Qui m'a beaucoup plu. On parle du Paris de la moitié du XVIIIe siècle, et si je vais faire un parallèle, ça m'a fait penser un peu à une histoire un peu à la Notre-Dame, version gay. Donc c'est vraiment un très beau livre si on aime les destins tragiques.
Et autre époque, autre ambiance avec un autre livre.
Ouais, alors c'est un roman graphique qui est signé Louis Fégloux et Marie-Lou Lesage aux éditions Le Duc Graphique. C'est un livre qui s'appelle donc Petite fille deviendra grand, et comme son nom l'indique, on va parler d'identité de genre. Donc en fait, c'est l'histoire de Louis Fégloux, le scénariste de la bande dessinée, qui est un jeune homme en médecine qui va se plonger dans son passé pour raconter son parcours d'homme trans, un homme trans qui est très présent sur les réseaux sociaux sous le pseudo Loulou parfois. Et donc il évoque son enfance auprès de sa mère, hein, qu'il a élevée seule, des questions qu'il va se poser, notamment quand il demande à sa mère pourquoi son zizi ne pousse pas comme celui des autres garçons. À l'adolescence, il va se constater une attirance pour les filles, ce qui va lui faire faire un coming out lesbien, avant de prendre conscience de sa transidentité en regardant un documentaire sur le sujet. Alors c'est un livre qui est vraiment très très bien fait à plusieurs niveaux. Je pense que il parlera à tous les jeunes trans qui se cherchent et qui trouveront sans doute des réponses à leurs questions, un modèle et surtout la certitude, et ça c'est important, qu'une vie heureuse et épanouie est possible quand on est trans. C'est un livre aussi qui peut donner aux parents des clés pour accompagner leurs enfants trans au mieux. Et puis c'est un livre qui peut également intéresser les personnes qui sont conscients des difficultés, des questions de genre et des transidentités à une époque, hein, comme on le sait, où
Où c'est difficile.
nos amis trans sont particulièrement stigmatisé.
On doit
Donc,
s'arrêter là-dessus, Christophe Gérard à Paris. Merci
ouais.
beaucoup et passe de joyeuses fêtes. On se retrouve en 2025.
Merci, à l'année prochaine.